Chapitre 18. Descartes. Il voulait déblayer le chantier. Alberto s'était levé et avait ôté son manteau rouge. Il le jeta sur le dossier d'une chaise et se rassit confortablement dans le canapé. René Descartes naquit en 1596 et mena une vie de voyageur à travers toute l'Europe. Jeune homme déjà, il avait le violent désir de parvenir à des connaissances sûres au sujet de la nature de l'homme et de l'univers. Mais les études de philosophie qu'il fit achevèrent de le convaincre de sa parfaite ignorance. Un peu comme Socrate? Oui, si tu veux. Il partageait avec Socrate la conviction que seule la raison permet une connaissance claire. Nous ne pouvons jamais faire confiance à ce qui est écrit dans les vieux livres. Nous ne pouvons pas non plus nous fier à nos sens. C'était aussi l'avis de Platon. Pour lui aussi, seule la raison permettait d'accéder à la connaissance. Très juste. Il y a une filiation de Socrate et Platon jusqu'à Descartes, en passant par saint Augustin. Ils étaient tous des rationalistes invétérés. Pour eux, la raison était le seul fondement sûr de la connaissance. Après avoir beaucoup étudié, Descartes en vint à la conclusion qu'il ne fallait pas nécessairement se référer à la pensée héritée du Moyen-Âge. Tu peux, en ce sens, songer à Socrate qui, lui aussi, tournait délibérément le dos aux idées reçues qui circulaient à Athènes. Alors que fait-on dans ce cas-là? Tu as une idée? On commence à philosopher par soi-même. Exactement. Descartes décida donc de voyager en Europe, tout comme Socrate passa sa vie à s'entretenir avec ses concitoyens. Il raconte qu'il voulait dorénavant chercher une connaissance qu'il trouverait soit en lui-même, soit dans le grand livre du monde. Il rejoignit à cette fin l'armée et put de cette manière séjourner dans diverses villes du centre de l'Europe. Il vécut plus tard quelques années à Paris, puis partit en 1629 en Hollande, où il travailla presque 20 années à ses écrits philosophiques. En 1649, il fut invité en Suède par la reine Christine, mais son séjour dans ce qu'il appelait le pays des ours, de la glace et des rochers se solda par une pneumonie, et il mourut l'hiver suivant, en 1650. Il n'avait alors que 54 ans. Mais il allait exercer une influence déterminante pour la philosophie, même après sa mort. On peut, sans exagération, affirmer que Descartes est à l'origine de la philosophie des temps modernes. Après la redécouverte enivrante de l'homme et de la nature, le besoin se faisait sentir de rassembler les idées de l'époque dans un système philosophique cohérent. Descartes fut le premier à construire un véritable système philosophique, comme le firent par la suite Spinoza, Locke, Berkeley, Hume et Kant. Qu'entends-tu par système philosophique? J'entends par là une philosophie qui reprend tout à zéro et tente d'apporter une réponse à tous les problèmes philosophiques. L'Antiquité avait eu deux grands théoriciens avec Platon et Aristote. Au Moyen-Âge, saint Thomas d'Aquin avait essayé de relier la philosophie d'Aristote à la théologie chrétienne. La Renaissance fut une époque tumultueuse où se mêlaient le passé et le présent. Au XVIIe siècle seulement, la philosophie tenta de rassembler les nouvelles idées et de s'ériger en système à proprement parler. Descartes, l'initiateur de ces systèmes cohérents de la pensée philosophique, cherchait avant tout à atteindre la connaissance par des idées claires et distinctes. Il voulait aussi étudier le rapport entre l'âme et le corps. On retrouvera ces deux questions pendant les 150 ans qui vont suivre. Il était donc en avance sur son temps? Ces questions étaient dans l'air du temps. Beaucoup avaient une attitude plus que sceptique quant à la possibilité d'atteindre une connaissance sûre. Selon eux, l'homme devait se contenter d'être conscient de sa propre ignorance. Mais cela ne suffisait pas plus à Descartes qu'à Socrate, qui, de son temps, s'attaqua à lui au scepticisme des sophistes. Puisque la nouvelle science de la nature venait d'établir une méthode qui permettait de rendre compte des phénomènes naturels avec une grande exactitude, Descartes se demanda pourquoi il ne serait pas possible de trouver une méthode aussi exacte et fiable concernant la réflexion philosophique. Je comprends. D'autre part, la nouvelle physique avait soulevé le problème de la nature de la matière, c'est-à-dire ce qui détermine les phénomènes physiques dans la nature. De plus en plus de personnes croyaient à une explication mécanique du monde, mais s'interrogeaient sur les liens entre l'âme et le corps. Car avant le XVIIe siècle, il était d'usage de considérer l'âme comme une sorte de souffle de vie qui animait tous les êtres vivants. C'est aussi le sens originel de l'âme et de l'esprit, souffle vital ou respiration, que l'on retrouve dans la plupart des langues européennes. Pour Aristote, l'âme était quelque chose de présent dans tout l'organisme comme principe de vie, donc indissociable du corps. C'est pourquoi il parlait aussi d'une âme végétative et d'une âme sensitive. Ce n'est qu'au XVIIe siècle que les philosophes firent une distinction radicale entre l'âme et le corps. Tous les objets physiques, que ce soit un corps d'homme ou d'animal, avaient une explication matérialiste, mais l'âme ne pouvait pas faire partie de cette machinerie corporelle. Qu'est-ce qu'était l'âme alors ? Comment expliquer que quelque chose de spirituel soit à l'origine d'un phénomène physique ?
C'est assez troublant, en effet.
Que veux-tu dire ?
Je décide de lever un bras et hop, le bras se lève. Ou bien je décide de courir après le bus et la seconde d'après, je pique un 100 mètres. À d'autres moments, il m'arrive de penser à quelque chose de triste et soudain, j'ai les larmes aux yeux. Il est clair qu'il y a une relation étrange entre le corps et la conscience.
C'est justement de ce constat qu'est parti Descartes. Comme Platon, il était convaincu que l'esprit était bien distinct de la matière. Mais quant à expliquer comment le corps agissait sur l'esprit et vice-versa, Platon n'apportait aucune réponse.
Moi non plus, je suis bien curieuse de savoir comment Descartes s'y est pris.
Suivons son propre raisonnement. Alberto montra du doigt le livre posé sur la table et poursuivit. Dans cet opuscule, le discours de la méthode, Descartes pose le problème de la méthode philosophique à suivre quand on se trouve face à un problème d'ordre philosophique. La science de la nature a déjà trouvé sa propre méthode.
Tu l'as déjà dit.
Descartes établit que nous ne considérons comme vrai que ce qui est clairement et distinctement reconnu comme tel. Il peut être nécessaire pour ce faire de diviser un problème en autant de petits problèmes que possible. On commence donc par les pensées les plus simples. Chacune d'elles sera pesée et mesurée, exactement comme Galilée voulait tout mesurer et rendre mesurable ce qui ne l'était pas. La philosophie rationnelle de Descartes part du plus simple pour aboutir au plus complexe, en soulignant le rôle de l'intuition, conception d'un esprit pur et attentif qui permet de saisir une idée dans sa clarté. À chaque étape, il s'agit de vérifier, de contrôler que l'on ne laisse rien échapper à la vigilance de l'esprit. On finit par être en mesure de déduire une certaine conclusion philosophique.
On dirait, à t'entendre, un exercice d'arithmétique.
Oui. Descartes voulait appliquer une méthode mathématique pour prouver la vérité de certaines idées philosophiques, comme s'il s'agissait de démontrer un théorème mathématique. Il voulait recourir au même outil que nous utilisons dans le cas des nombres, à savoir la raison. Nous ne saurions nous fier à nos sens, comme nous l'avait déjà dit Platon.
Mais peut-on résoudre des problèmes philosophiques de cette manière?
Revenons au raisonnement de Descartes. Pour trouver la vérité quant à la nature de l'existence, il commence par douter de tout. Il veut en effet construire son système philosophique sur des bases solides.
Car si les fondations s'effondrent, toute la maison s'écroule avec.
C'est gentil de vouloir m'aider, mon enfant. Descartes ne veut pas dire qu'il est bon de douter de tout, mais que, dans le principe, il est possible de douter de tout. Pour ce qui est de connaître le monde, nous ne serons pas tellement plus avancés de lire Platon ou Aristote. Tout au plus, aurons-nous approfondi notre connaissance historique. D'où la nécessité de faire table rase du passé.
Il voulait déblayer le chantier avant de construire sa propre maison, c'est ça?
Oui. Pour être sûr que les fondations de la pensée soient bien solides, il voulait n'utiliser que des matériaux tout neufs.
Le doute de Descartes allait encore plus loin. Nous ne pouvons même pas tenir compte de nos sens, car qui sait s'il ne se moque pas de nous?
Comment ça?
Quand nous rêvons, nous croyons bien vivre quelque chose de réel. Qu'est-ce qui différencie nos perceptions à l'état de veille de celles dans nos rêves?
Quand je considère attentivement cela, je ne trouve pas une seule qualité qui sépare nettement la veille du rêve, écrit Descartes.
Et de poursuivre, comment être sûr que toute la vie n'est pas qu'un rêve?
Yeppe sur la montagne croyait lui aussi qu'il avait seulement rêvé avoir dormi dans le lit du baron.
Et quand il était dans le lit du baron, il croyait que sa vie de pauvre paysan n'avait été qu'un mauvais rêve.
C'est pourquoi Descartes préfère douter de tout d'un bloc.
Beaucoup d'autres philosophes avant lui s'étaient arrêtés là.
Ça ne les menait pas bien loin, en effet.
Mais Descartes voulait partir de zéro. Et ce doute fondamental était sa première et unique certitude.
Mais s'il doute, il doit aussi être sûr qu'il pense.
Et s'il pense, il doit donc être un être pensant. Ou, comme il le dit lui-même, « cogito ergo sum ».
Ça veut dire quoi?
Je pense, donc je suis.
On ne peut pas dire que ce soit une conclusion fracassante.
C'est vrai. Mais note cependant avec quelle remarquable certitude, d'ordre intuitif, il s'appréhende tout à coup comme un être pensant.
De même que Platon pensait que ce que nous saisissons avec notre raison est plus réel que ce que nous percevons avec nos sens, Descartes comprend que ce « je pensant » est plus réel que le monde matériel perçu par nos sens. Et il ne s'arrête pas là.
Eh bien, ne t'arrête pas non plus.
Descartes se demande ensuite s'il ne connaît pas autre chose avec la même certitude intuitive que le fait d'être un sujet pensant.
Il a aussi la nette conscience qu'il existe un être parfait.
Cette idée s'est toujours imposée à lui, ce qui lui permet d'en déduire qu'elle ne peut pas venir de lui-même.
Cette idée de perfection ne peut venir que d'un être parfait, en d'autres termes, de Dieu.
Que Dieu existe est pour Descartes une vérité aussi évidente que celle qui établit un sujet pensant.
Je trouve qu'il se met à tirer des conclusions un peu hâtives. Il était plus prudent au début.
Oui, beaucoup ont relevé cela comme étant le point faible de Descartes.
Mais tu as employé le terme de « conclusion ».
En fait, il n'y a aucune preuve réelle. Descartes pense simplement que nous avons une idée d'un être parfait. Et que cet être doit exister, puisque nous l'imaginons.
En effet, cet être ne serait pas parfait s'il n'existait pas.
Nous ne serions en outre imaginer un tel être s'il n'existait pas, puisque nous sommes imparfaits et incapables de concevoir l'idée de la perfection.
Selon Descartes, l'idée de Dieu est innée. Elle est inscrite dans notre nature, comme un tableau porte la signature de l'artiste.
Mais je peux m'amuser à imaginer à quoi ressemblerait un croque-au-fond sans pour cela qu'il existe réellement.
Descartes aurait répondu que son existence n'est pas assurée dans le concept croque-au-fond, alors que dans le concept être parfait, il y a l'assurance qu'un tel être existe.
Cela est pour Descartes aussi vrai que, dans l'idée du cercle, le fait que tous les points de la circonférence sont à équidistance du centre.
Tu ne peux pas parler d'un cercle si cette condition n'est pas remplie.
De la même façon, tu ne peux pas parler de l'être parfait s'il lui manque la plus importante de toutes les qualités, à savoir l'existence.
C'est un drôle de raisonnement.
C'est une argumentation typiquement rationaliste.
Comme Socrate et Platon, il estimait qu'il y avait un lien entre la pensée et l'existence.
Plus quelque chose est éclairant pour la pensée, plus on est sûr de son existence.
Bon, il a établi jusqu'ici qu'il est un être pensant et qu'il existe un être parfait.
À partir de là, il fait le raisonnement suivant. On pourrait penser que toutes les images du monde extérieur, comme le soleil et la lune, ne sont que des chimères. Mais la réalité extérieure possède des qualités que nous pouvons reconnaître avec la raison. Il s'agit des rapports mathématiques, c'est-à-dire ce qu'on peut mesurer en longueur, largeur et profondeur. Ces qualités d'ordre quantitatif sont aussi claires et distinctes pour ma raison que le fait d'être un sujet pensant. En revanche, les attributs d'ordre qualitatif, tels que la couleur, l'odeur et le goût, sont liés à notre appareil sensoriel et ne décrivent pas au fond la réalité extérieure. La nature n'est donc pas un rêve? Non. Et sur ce point, Descartes revient à sa conception de l'être parfait. Quand notre raison reconnaît clairement et distinctement quelque chose, prenons le cas des rapports mathématiques, alors c'est qu'il en est ainsi, car un Dieu parfait ne se moquerait pas de nous. Descartes fait appel à la garantie de Dieu, afin que ce que nous reconnaissons, avec notre raison, corresponde aussi à quelque chose de réel. Bon, passons. Il en est à savoir qu'il est un être pensant, que Dieu existe et qu'il existe aussi une réalité extérieure. Mais la réalité extérieure est d'une autre nature que la réalité de la pensée. Descartes peut dès lors affirmer qu'il existe deux différentes formes de réalité, ou deux substances. La première substance est la pensée, ou l'âme. L'autre est l'étendue, ou la matière. L'âme est consciente d'elle-même. Elle ne prend pas de place et ne peut par conséquent pas se diviser en plus petites parties. La matière, au contraire, s'étend. Elle occupe une place dans l'espace et peut indéfiniment se subdiviser, mais elle n'est pas consciente d'elle-même. Selon Descartes, ces deux substances découlent de Dieu, car seul Dieu existe de manière indépendante. Cela dit, ces deux substances sont tout à fait indépendantes l'une de l'autre. La pensée est entièrement libre par rapport à la matière et inversement. Les processus matériels peuvent se produire indépendamment de la pensée. Il partage donc la création de Dieu en deux. Exactement. Nous disons que Descartes est dualiste, c'est-à-dire qu'il distingue radicalement la réalité spirituelle de la réalité matérielle. Seul l'homme a une âme. Les animaux appartiennent à la réalité matérielle puisque leur vie et leur mouvement sont soumis à des lois mécaniques. Descartes considérait les animaux comme des sortes d'automates perfectionnés. Je me permets d'émettre de fortes objections au fait de réduire Hermès à une machine ou un automate. On voit bien que Descartes n'a jamais aimé un animal. Et nous alors, on est aussi des automates? Oui et non. L'homme est selon lui un être double, puisqu'il pense et occupe une place dans l'espace, c'est-à-dire qu'il possède à la fois une âme et un corps spatial. Saint Augustin et saint Thomas d'Aquin avaient déjà dit que l'homme avait un corps comme les animaux et un esprit comme les anges. Descartes trouvait que le corps de l'homme était une mécanique sophistiquée, tandis que son âme pouvait vivre indépendamment du corps. Les phénomènes corporels ne jouissent pas d'une telle liberté. Ils suivent leurs propres lois. Ce que nous pensons avec notre raison n'a pas d'incidence sur le corps, mais sur l'âme affranchie des contraintes spatiales. Encore faudra-t-il ajouter que Descartes n'exclut pas le fait que les animaux puissent penser. On en a déjà parlé. Si je me décide à courir pour attraper le bus, tout l'automate en moi se met en mouvement. Et si je le rate quand même, j'ai les larmes aux yeux. Même Descartes ne pouvait nier l'interaction permanente entre l'âme et le corps. Aussi longtemps que l'âme habite un corps, elle est liée à lui grâce à une glande spéciale dans le cerveau. L'âme peut se laisser toucher par toutes sortes de sentiments et d'affects qui ont trait aux besoins corporels. Mais l'âme peut aussi se détacher de ses bas instincts, ainsi que de sentiments comme le désir ou la haine, et agir indépendamment du corps. Le but est de laisser la raison diriger le jeu. Car même si j'ai mal au ventre, la somme des angles d'un triangle restera toujours égale à 180 degrés. Il est toujours loisible, à la raison, de s'élever au-dessus de ses contingences matérielles et d'agir raisonnablement.
Vu sous cet angle, la raison est souveraine. Nos jambes finissent par ne plus pouvoir nous porter. Notre dos s'arrondit et nous perdons nos dents sans pour autant que 2 plus 2 cesse de faire 4. Et cela aussi longtemps que nous serons doués de raison. Car la raison ne peut vieillir et s'avachir comme notre corps. Pour Descartes, la raison elle-même est l'âme.
Attends, je n'arrive toujours pas à comprendre comment Descartes peut comparer le corps à une machine ou un automate.
À l'époque de Descartes, les hommes étaient très fascinés par les machines et tous les mécanismes d'horlogerie qui donnaient l'apparence de fonctionner tout seul. Le terme « automate » signifie justement quelque chose animé d'un mouvement autonome, c'est-à-dire qui part de lui-même. Ce n'est certes qu'une illusion. Une horloge astronomique, par exemple, est construite et remontée par des hommes. Ces instruments artificiels sont finalement composés seulement de quelques pièces assemblées entre elles, alors que le corps de l'homme ou de l'animal regroupe une infinité d'os, muscles, nerfs, veines et artères. Mais pourquoi Dieu ne produirait-il pas un corps d'animal ou d'homme sur la base de lois mécaniques?
On parle beaucoup aujourd'hui d'intelligence artificielle.
Ce sont en fait les automates de notre temps. Nous avons créé des machines qui parviennent à nous faire croire qu'elles sont vraiment intelligentes. Ce genre de machine aurait certainement flanqué une peur bleue à Descartes. Il aurait commencé à mettre sérieusement en doute l'indépendance et la liberté de la raison humaine. Il existe en effet des philosophes qui pensent que la vie spirituelle est aussi peu libre que les processus corporels. L'âme d'un homme est bien sûr infiniment plus compliquée qu'un programme informatique, mais d'aucuns pensent, malgré tout, que nous ne sommes pas fondamentalement plus libres que certains programmes d'ordinateur. Mais attends, Sophie, je vais te montrer quelque chose.